Alors ce soir, je voulais vous parler un peu, faire une sorte de petite introduction finalement sur la foi chrétienne, sur finalement qu'est-ce que ça peut être, la catéchèse, hein, et puis d'entrer dans la foi, qu'est-ce que ça signifie. Dans les religions, on en entend souvent parler, hein, il y en a beaucoup, même autour de nous, et on voit bien que historiquement, chaque peuple a un petit peu sa religion, c'est une dimension souvent de la culture, hein, des peuples, une religion qui exprime un petit peu sa recherche du sens, sa recherche d'une compréhension de toutes les relations du quotidien, les relations entre humains, mais aussi les relations avec le monde invisible, donc cette dimension un peu mystérieuse. Donc cette religion qui inclut généralement un ensemble de croyances, de valeurs, qui parfois sont communes, parfois sont distinctes, mais qui sont, bon, on va dire, respectables dans le sens où elles témoignent d'une recherche, d'une cohérence, d'un sens. Même là, on peut dire que l'athéisme, par exemple, qu'on voit autour de nous, c'est une forme de religion finalement. Qui sont un petit peu notre recherche, la recherche humaine de sens spécialement dans les relations que nous vivons. Alors la religion chrétienne, est-ce que c'est une religion parmi d'autres? Bien sûr, on peut la voir comme ça, hein, c'est comme ça qu'elle est identifiée, mais de l'intérieur, nous voyons les choses un petit peu différemment. Nous parlons plutôt de la révélation chrétienne, plutôt que de la religion chrétienne. Puisque dans les religions, en fait, ce sont les hommes qui cherchent quelque chose, qui cherchent Dieu, ou qui cherchent du sens. Dans la révélation, nous avons conscience que c'est Dieu qui vient à notre rencontre. C'est Dieu qui se révèle, qui manifeste quelque chose, qui vient au-devant de nous. Ce n'est pas nous qui faisons le premier pas, c'est lui. C'est lui qui vient nous rencontrer et qui vient se révéler, expliquer des choses, nous partager des choses sur des choses qui nous dépassent, parfois des choses du monde invisible, des choses qui ne sont pas évidentes, mais des choses qui nous viennent de lui qui est l'auteur de tout ce qui existe et donc qui est le mieux informé de la vérité de tous les êtres. Alors cette révélation chrétienne, en fait, ce n'est pas juste une révélation dans le sens où on va révéler quelque chose, raconter quelque chose. Ce n'est pas juste des informations qui viennent informer notre esprit, hein. C'est en même temps une communication de Dieu. Dieu ne va pas simplement venir nous informer de certaines choses, il va se donner et nous transformer. Parce que nous croyons que Dieu est amour, c'est un petit mot qui veut dire beaucoup de choses, hein. On peut revenir dessus tous les jours, hein. Mais le propre de l'amour, justement, c'est de se diffuser, de se partager, de se communiquer. Et au cœur de la révélation, eh bien, ce ne sont pas des informations qui nous viennent d'en haut, c'est Dieu qui se communique, qui nous transforme et qui se donne lui-même. Il révèle qui il est en nous faisant entrer dans ce qu'il est, en nous faisant expérimenter cet amour qu'il est. Donc justement, c'est le fait d'entrer finalement dans la foi chrétienne, dans la révélation chrétienne, ce n'est pas seulement une affaire de croyance, une affaire intellectuelle, de choix intellectuel, de croyance, mais il y a cet accueil de quelque chose qui vient de Dieu et qui finalement nous transforme. Alors au cœur de notre révélation chrétienne, il y a bien sûr le Christ. C'est lui qui est le centre, Jésus. Jésus, un vrai homme qui a existé dans l'histoire, qui a laissé une grande trace dans l'histoire, vrai homme et vrai Dieu en même temps. C'est pour cela que c'est Jésus qui va nous révéler finalement ce qu'est l'homme, le mystère de l'homme, et en même temps il nous révèle qui est Dieu. Et dans sa propre personne, c'est lui qui va faire le lien entre l'humanité et entre Dieu. Il va faire le lien et il va nous faire partager sa vie. Quand lui vient partager notre vie humaine, il nous permet à nous de partager mystérieusement sa vie divine. il va partager sa vie divine en nous donnant son esprit. Jésus va parler souvent de cet esprit qui fait que nous devenons, nous aussi, des enfants de Dieu, d'une manière mystérieuse, d'une manière un peu dérivée de sa manière à lui d'être fils de Dieu. Et nous entrons ainsi dans une sorte de famille où nous sommes tous frères et sœurs, enfants d'un même Père. Alors justement, par Jésus, nous avons cette expérience de la vie dans l'Esprit et qui nous rend fils du Père. C'est pour cela que nous parlons du mystère de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Alors c'est un point fort évidemment de notre foi chrétienne, qui est difficile à expliquer. Quand les gens cherchent à comprendre, oui, mais est-ce qu'on a un Dieu ou trois dieux, ça paraît un petit peu complexe, cette affaire de Trinité. C'est complexe parce qu'on ne peut en fait le percevoir que quand on accepte d'entrer dans le mystère. C'est-à-dire quand Jésus nous permet de vivre, d'accueillir son esprit, il nous fait entrer dans ce mystère des relations entre nous et avec Dieu, qui font qu'on peut percevoir ce que signifie la Trinité. C'est finalement d'entrer dans ces relations. Donc, et on revient à cette idée justement que le fait que d'entrer dans la foi chrétienne, finalement, ça suppose cette transformation, cette intégration du mystère de Dieu, finalement. Et forcément qui nous transforme. Alors parce que Jésus est vraiment homme, et ça c'est un élément clé pour nous, tout ce qui concerne notre vie humaine est vraiment au cœur de la révélation chrétienne. Et ça va jusqu'à l'histoire concrète de chacun. Ce n'est pas pour rien justement que Jésus a vécu une histoire humaine, une aventure humaine depuis son premier instant jusqu'au dernier et après même le dernier. Donc, Jésus a vécu cette expérience humaine pour nous dire la dignité et l'importance de tout ce que nous vivons dans notre vie humaine. Et du coup, tout ce que nous vivons dans notre foi chrétienne en relation à Jésus, ça va nous transformer dans notre manière de vivre notre vie humaine. Jésus nous introduit dans un mode de vie qui devient différent, qui devient particulier. Notre mode d'être en tant que chrétien, il concerne notre vie humaine dans toutes ses dimensions. Sinon, il ne serait pas vraiment chrétien. Alors, c'est pour le cœur, le Christ, qui est le centre de notre révélation chrétienne. Alors, j'aimerais préciser un petit peu une différence qu'on met dans notre jargon un peu chrétien entre la croyance et la foi. Parce que quand nous accueillons la révélation, nous parlons de la foi chrétienne, mais est-ce que c'est justement comparable à d'autres croyances? Alors en fait, on va utiliser le mot de croyance pour toutes les opinions, tout ce qu'on peut être amené à croire ou à penser. Dans toutes les religions, un petit peu, il y a un système de croyance. Quand nous, chrétiens, nous parlons de foi, c'est que nous avons conscience que ce n'est pas simplement une croyance intellectuelle, c'est quelque chose qui nous est donné. C'est quelque chose qui nous est révélé. Et du coup, on va accueillir, en fait, cette révélation, pas simplement parce qu'on a jugé que c'était pertinent, que c'était intéressant, que c'était pas mal, comme croyance. Généralement, on accepte des croyances quand elles nous ont l'air cohérentes ou sensées. On ne va pas accepter la foi simplement comme une croyance, mais parce que c'est Dieu qui nous le dit. Parce que c'est Dieu qui se révèle, et on va accepter cette foi à cause de l'autorité de Dieu. On va se baser sur l'autorité de celui qui se révèle. Parce que nous voulons d'abord croire Dieu. Nous croyons Dieu comme nous croyons nos parents, comme nous croyons le professeur qui nous parle, parce qu'il a une autorité, une compétence, une crédibilité, et nous voulons croire Dieu, croire ce qu'il nous dit. Et ça va être ça un petit peu la base de notre accueil de la foi. Nous croyons Dieu parce qu'il est vrai, il est véridique, et nous croyons qu'il ne peut pas se tromper et qu'il ne peut pas nous tromper. Il ne peut ni se tromper ni nous tromper. C'est une formule un peu simple, mais qui résume finalement pourquoi nous croyons Dieu. Si on ne croit pas Dieu, on ne croit personne. Parce que Dieu est le plus sûr des maîtres et le meilleur des pères. Alors cette autorité de Dieu, nous l'acceptons bien pour diverses raisons. Ça dépend un peu de chacun, du parcours de chacun. Mais on peut remarquer que Dieu nous donne un petit peu des signes pour attester sa crédibilité. Il ne vient pas nous donner son diplôme comme professeur, mais il donne quand même des signes. Et on peut voir, par exemple, que ce sont tous les signes que Jésus a réalisés pour attester qu'il venait de Dieu. Donc, parmi ces signes, il y a les miracles, finalement, qui disent que Jésus a la puissance de celui qui a créé, finalement, du Créateur. Ces miracles qui ne sont pas simplement des petits coups de baguette magique, on peut distinguer ça de la magie, parce que la magie, ça, j'allais dire, c'est une sorte de pouvoir sur les choses, pouvoir qui va au-delà de la nature, mais un petit peu arbitraire. Les signes de Jésus ont toujours un sens spirituel. Il ne fait pas des tours de magie pour épater la galerie. Quand Jésus fait un signe de puissance, c'est toujours avec un sens sous-jacent, pour montrer quelque chose, pour vraiment approfondir une doctrine. Quand il multiplie les pains, c'est pas juste parce qu'il aurait pu multiplier les moineaux ou autre chose pour s'amuser. C'est pour donner un signe par rapport au fait qu'il veut nourrir les hommes. Donc, quand je dis miracle, c'est ce genre de miracle qui ont tout un sens, toute une profondeur. Jésus est aussi venu pour accomplir des prophéties. Quand on étudie justement l'Ancien Testament, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui étaient annoncées, prophétisées, qui se réalisent en Jésus. Ça fait partie des signes qui attestent qu'il vient vraiment de Dieu. Dans les signes de crédibilité, on peut aussi souligner finalement la cohérence et la beauté de l'idéal chrétien, finalement de toute notre foi chrétienne qui peut-être par comparaison avec d'autres croyances montre qu'elle a quelque chose de différent, de transcendant. Ça peut être une manière aussi de pressentir qu'il y a quelque chose derrière cette révélation chrétienne, le Créateur. Et il y a aussi, pour attester de la crédibilité de la révélation, il y a finalement toutes les belles choses qui sont nées de cette foi chrétienne, au travers de la vie, pas seulement de Jésus, mais de tous les chrétiens. Tout au long de l'histoire de l'Église, on voit beaucoup de fruits de sainteté dans la vie des croyants, qui sont aussi un signe qu'il y a, il y a quelque chose qui vient d'en haut. Et nous voulons justement accueillir cette foi chrétienne parce que c'est vraiment Dieu qui se révèle. Nous voulons croire Dieu. C'est ça notre... Nous intéresser, essayer de chercher ce que Dieu nous dit, et le croire parce que c'est vraiment lui qui se révèle, c'est lui qui le dit. Alors quand nous parlons de croire, il y a aussi une autre dimension, nous croyons à certaines choses. Croire à, c'est quand on parle de certains éléments particuliers, je crois à, je crois aux fantômes, par exemple. Je crois à, pour dire je crois que cela existe, je crois à ci ou à ça. Dans notre foi chrétienne, il y a aussi des moments où nous disons « je crois à ci, à ça », à la fin de notre credo. Je crois à l'Église, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Un ensemble d'articles de foi, de choses qui ne sont pas forcément vérifiables. Mais nous croyons que ça existe justement parce que Dieu nous l'a révélé. Et puis, au cœur de cette dimension du croire, il y a surtout le fait de croire en Dieu. Quand nous disons ensemble le credo, justement, le dimanche, nous disons « Je crois en Dieu le Père ». Croire en quelqu'un, c'est quelque chose d'encore plus fort. Ce n'est pas seulement croire que quelqu'un existe, ce n'est pas seulement croire l'écouter, c'est de l'ordre de la relation. Croire en quelqu'un, ça veut dire se reposer vraiment totalement dans l'autre. C'est une expression qu'on n'utilise pas souvent d'ailleurs, sauf peut-être quand on est marié ou dans l'amitié. « Je crois en toi », ça suppose une profondeur dans la relation, une connaissance mutuelle, et c'est jusque-là que nous allons dans la foi, justement. Si nous lisons bien notre credo, c'est « Je crois en Dieu le Père, en Jésus son Fils, en l'Esprit Saint, à l'Église, à la communauté des saints, à... » Mais par rapport au à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, c'est je crois en Dieu. Est-ce qu'il y a vraiment cette relation qui est de l'ordre de l'alliance, presque de l'alliance conjugale, de l'union, puisque c'est un lien qui va transformer toute notre vie. Voilà un petit peu pour la dimension du croire, hein, croire Dieu, croire à Dieu, hein, croire à ce qu'il nous dit, hein, croire en Dieu. Alors au cœur de notre foi, ben, il y a bien sûr la personne de Jésus, je le dis et je le redirai toujours, et en disant ça, on a presque tout dit, hein. Mais ce Jésus n'est pas une météorite qui est tombée du ciel, comme ça, hein. Il aurait pu. Il est entré dans notre vie humaine, il est entré concrètement ben, au travers de la vie d'une femme, la Vierge Marie. Il a pris chair de la Vierge Marie. C'est pour dire qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'union entre l'histoire humaine et cette révélation que Dieu a faite. Donc Jésus a pris chair de la Vierge Marie, il est entré dans la vie de cette personne qui elle-même est un membre d'un peuple, hein, le peuple juif, qui avait été préparé depuis des siècles, ce peuple que Dieu avait choisi et accompagné longuement, ce peuple avec lequel Dieu avait un lien particulier, l'Alliance, hein, ce qu'on appelle, nous, l'Ancienne Alliance. Le peuple juif, donc, est le peuple qui était en attente de la dernière étape de la révélation, en attente, donc déjà qui cultivait cette relation avec le Seigneur, mais en même temps dans l'attente d'une plénitude de révélation, dans l'attente du Messie, du Sauveur, qui sera Jésus, justement. Alors c'est toute l'histoire, en fait, de ce peuple qui témoigne de la présence et de l'action de Dieu, au travers bien de toute l'histoire sainte que nous lisons justement dans l'Ancien Testament. Dans la loi de Moïse, les premiers livres, les prophètes et les écrits qui constituent l'Ancien Testament. Tout ça, vous connaissez déjà, je pense. Mais c'est bon de me rappeler justement, que Jésus est venu au travers de ce peuple, de Marie, mais membre de ce peuple. Alors dans cette ancienne alliance, en fait, il y a une première grande figure de la foi qui est Abraham, le père des croyants. Abraham, père d'Isaac, grand-père de Jacob, et c'est Jacob qui va recevoir le nom d'Israël, et à partir de lui va être constitué ce peuple d'Israël, ce peuple, cette nation, cette culture. Alors, parmi justement toutes les cultures, toutes les nations, bien sa spécificité, c'est d'être le bénéficiaire de la révélation, hein, d'être le premier peuple à accueillir cette révélation que Dieu a faite. C'est Dieu qui est allé chercher Abraham. C'est lui qui s'est révélé. Alors cette sorte de bénéfice, de privilège, est un petit peu exclusif à l'époque, hein, dans le sens où il exclut finalement ce que vivent les autres peuples, mais il est provisoire. Hein, c'était une étape provisoire de la révélation, une étape nécessaire, mais provisoire, parce que finalement, cette révélation, elle doit rejoindre tous les hommes, puisque le projet de Dieu concerne tous, toute l'humanité. Et cette universalité du projet de Dieu, elle va se révéler en Jésus. Alors pour cela, ce passage du judaïsme, de la première étape, à la nouvelle étape du christianisme, eh bien, il va se faire pas par une explosion, mais par une implosion, si je puis dire. Il va se faire par un paradoxe, puisque Jésus est le Messie, en fait, qui était attendu par le peuple, et c'est dans le fait qu'il a été refusé que le salut va se réaliser, mystérieusement. Le Christ a été rejeté par le peuple, mais pas totalement, justement. C'est là qu'il faut regarder en détail l'histoire sainte. Parce qu'en fait, il y a une charnière, hein, qui fait la continuité, hein, qui explique en même temps la continuité et la discontinuité. Cette charnière, eh bien, il y a une charnière individuelle dans la personne justement de Marie, qui qui est à la fois l'incarnation de la foi juive, c'est elle qui était pleinement pétrie de la foi juive et ça lui a permis d'accueillir pleinement le mystère du Christ, d'accueillir vraiment le Sauveur et de suivre le Christ tout au long de sa vie. Et c'est Marie qui est la première figure de l'Église. C'est elle qui est à la fois pleinement une fille d'Israël et pleinement la première disciple de Jésus et la figure de l'Église. Donc dans Marie, nous voyons la continuité et le fait, l'accomplissement de la foi, de l'ancienne foi juive dans la foi chrétienne. Et puis il y a cette charnière aussi très importante des 12 apôtres, puisque voilà, beaucoup de juifs ont refusé le Christ, mais il y en a qui l'ont accepté, accueilli. Et en particulier les 12 qui ont été choisis par Jésus, justement au nombre de 12, pour signifier qu'ils sont le nouveau peuple, le nouvel Israël. Comme Israël était bâti sur les 12 tribus, hein,
oui,
12 patriarches, eh bien, nous avons ces 12 colonnes qui sont le nouvel Israël, hein, et qui sont entrées dans la nouveauté de Jésus, qui ont été préparées d'abord spécialement dans toute la révélation juive, qui ont été préparées encore par Jean-Baptiste, hein, puisque nous savons que les premiers des apôtres, eh bien, c'est Jean-Baptiste qui les a présélectionnés. Si on regarde bien dans l'évangile de Jean, c'est Jean-Baptiste qui les envoie auprès de Jésus. Donc il y a vraiment toute une préparation qui fait que voilà, ces quelques juifs se sont pleinement accomplis dans la foi chrétienne, ont pleinement accueilli cette foi chrétienne. Et ces 12 colonnes de l'Église, eh bien, sont à la base de ce qui est l'Église, justement, la structure de l'Église. Alors l'Église, beaucoup de choses à en dire, mais c'est grâce à l'Église que nous connaissons Jésus. L'Église, c'est finalement pour nous notre lien, c'est ce qui permet notre lien à Jésus. C'est par l'Église qu'on reçoit Jésus en devenant membre de cette famille, de cette communauté, et bien on reçoit la révélation et on participe à la vie de Jésus. Alors il faut remarquer justement que Jésus n'a pas écrit de livre, il n'a pas il n'a pas fondé une religion au sens d'autres religions, justement. Il y a un fondateur qui écrit des choses et on les transmet. Jésus n'est pas simplement un fondateur de religion, il est le fondement de l'Église. Et le fondement toujours présent, toujours actuel. Jésus est aujourd'hui tout aussi présent parmi nous qu'il était il y a 2000 ans. Et il se rend pleinement présent, justement, dans la vie de la communauté, dans la vie de l'Église. C'est peut-être cette phrase de Bossuet qui dit beaucoup. L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. C'est une sorte de définition de l'Église qui dit l'essentiel. C'est pour cela que nous sommes ensemble ce soir. Et c'est pour cela que transmettre la foi, c'est quelque chose qui se vit en Église, partager la foi. Alors, la plénitude de la révélation, justement, tout ce que Dieu a voulu nous dire, c'est Jésus. C'est la vie de Jésus. En lui, Dieu nous a tout dit, il a tout fait, il a tout donné. Les apôtres étaient les premiers témoins de la vie humaine de Jésus, de la doctrine de Jésus. Ils ont reçu cette révélation, ils l'ont transmise. Et on considère, justement, que finalement, notre foi chrétienne, c'est tout ce que les apôtres ont reçu de Jésus et qui a été transmis depuis. C'est pour ça qu'on parle parfois du dépôt de la foi. La foi comme un dépôt dans le sens où il y a un trésor, une boîte à trésors, et ce trésor a été donné une fois pour toutes. C'est Jésus, la vie de Jésus, tel qu'il a été reçu par les apôtres. Et pour nous, le dépôt de la foi s'est terminé avec la mort du dernier apôtre. Donc la révélation est pleine, elle est terminée. C'est pour ça qu'on n'attend pas de nouveautés. Dieu a déjà tout dit en Jésus, mais en même temps, notre compréhension de la révélation, elle augmente toujours. Nous comprenons toujours plus profondément les choses. Il y a des doctrines qui n'ont pas se changent, mais qui se développent au fur et à mesure du temps. comme un arbre se développe, hein, comme une plante se développe, comme un organisme se développe. C'est la loi de la vie, ce développement, mais dans la continuité avec cette racine, ce dépôt de la foi. Alors les apôtres ont choisi de consigner la vie et le message de Jésus dans les évangiles. À leur époque, bon, les choses se transmettaient d'abord oralement, bien sûr, mais ils ont choisi de mettre par écrit un certain nombre d'éléments, donc les évangiles, et ils ont même expliqué un petit peu la vie chrétienne dans divers autres écrits, hein, que nous avons conservés, et qui, voilà, tout ça constitue aujourd'hui notre Nouveau Testament, hein, qui nous donne finalement le témoignage des apôtres, hein, et qui nous permet de rejoindre en partie le dépôt de la foi. Puisqu'il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout de la vie de Jésus. Il y a ce qu'on peut atteindre par la parole. Il n'y a pas que ça. Il y a plus que ça en Jésus. Alors, ces apôtres ont aussi transmis leur mission aux générations suivantes au travers des évêques, au travers de la hiérarchie de l'Église, qui se continue. Puisque tout ce que Jésus a établi, il l'a établi définitivement. C'est pour toujours. Cette structure de l'Église autour des apôtres, eh bien, elle continue, elle se transmet au travers, jusqu'aujourd'hui, de la hiérarchie. Et finalement, cette hiérarchie qui a une autorité spéciale pour expliquer la foi, pour présenter la foi, hein, qu'on appelle le magistère. C'est un mot aussi qu'on entend souvent, le magistère de l'Église. Alors Jésus a aussi transmis sa vie par les sacrements, hein, par des signes visibles au travers desquels il se passe quelque chose. Ces signes, d'abord, ben, c'est simplement du baptême, de la confirmation, hein, nous savons qu'ils sont fondamentaux, par lesquels nous recevons la vie de Jésus. Et ça fait partie de la révélation, justement. Ce n'est pas un détail. Tous les fidèles, autant que nous sommes, justement, les fidèles, c'est ceux qui ont la foi, qui vivent de la foi. Nous sommes finalement nourris de cette vie divine au travers des sacrements. Nous sommes éclairés par les Écritures que nous relisons toujours, que nous relisons et que nous interprétons en continuité avec ce qui nous a été donné dans toute l'histoire de l'Église, depuis les apôtres. Et c'est tout ça, finalement, qu'on appelle la tradition. Tradition, c'est pas un gros mot, hein. C'est pour dire ce qu'on porte ensemble, hein, toute cette vie du Christ que l'on porte depuis 2000 ans. Et dans cette tradition, ben, il y a aussi, finalement, ben, tous les fruits de notre vie chrétienne, et tout ce que Jésus peut inspirer d'une manière personnelle dans la vie de chacun d'entre nous. Donc, voilà. Alors ça, c'était juste pour présenter un petit peu quelques éléments de base, hein, sur la révélation. Alors, pour terminer, j'aimerais juste rappeler quelques manières d'entrer dans la révélation, hein, même si ce sont des choses que nous vivons tous plus ou moins. Mais comment approfondir la révélation, comment vivre cette révélation, cette relation à Dieu? Alors la première dimension, je pense que c'est celle de la prière. Parce que nous savons que la révélation, justement, c'est une relation. La relation, ça suppose d'être en contact. Donc la prière, qui est pour nous un dialogue, même si mystérieusement notre interlocuteur est invisible, mais il est présent. Cette prière qui passe parfois par des questions, hein. Il ne faut pas hésiter à poser la question au Seigneur, comme Charles de Foucault le faisait. Seigneur, si tu existes, donne-moi de te connaître. Il y a des moments où on peut douter, hein. Mais même dans les moments où nous doutons, bah, parlons au Seigneur, essayons de cultiver cette relation. Cultiver le désir de connaître Dieu, hein. Le désir de le connaître aussi intellectuellement. Parce que nous avons besoin de comprendre les choses pour mieux croire. Nous voulons croire, nous voulons comprendre pour mieux croire, et nous voulons croire pour mieux comprendre. C'est un cercle, et il faut toujours creuser dans les deux sens. Il y a la vie de la communauté chrétienne, ce que nous vivons ensemble, ce que l'Église nous permet de vivre au travers des célébrations communautaires, surtout la messe, on en parlera un jour. Les autres moments de rencontre, de prière, tous ces moments qui nous permettent d'entrer dans le flot de la tradition. Quand nous parlons de la tradition, nous parlons justement de la tradition vivante. Il faut bien dire que la tradition, ce n'est pas juste un truc du passé qui nous tombe dessus. Non, C'est toute la vie du Christ qui transite par l'Église et qui est vivante aujourd'hui, que nous recevons aujourd'hui. Nous nous connectons à la vie de Jésus au travers de la vie de l'Église aujourd'hui, dans les sacrements spécialement. Alors, pour connaître la révélation, il y a bien sûr les Écritures. C'est incontournable. Alors, pour ceux qui veulent relire ou redécouvrir les Écritures, je conseille de commencer par Jésus. C'est lui le cœur de la révélation chrétienne. Parce qu'on se rend compte que si on veut commencer, si on veut lire la Bible du début à la fin, on est vite noyé. Hein. Alors il y a des choses très intéressantes au début, on suit pas mal dans la Genèse, mais après, ça devient difficile et après c'est ironique. Hein. Il faut commencer par Jésus. Je trouve que c'est ironique. Il faut commencer par Jésus, parce qu'en fait, toute cette histoire de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, ce n'est pas directement notre histoire. Ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre peuple. Ça devient notre histoire à partir du moment où nous vivons en relation avec Jésus. Et là, nous avons besoin de comprendre ce que signifie Jésus dans cette histoire. C'est pour ça qu'il faut commencer par Jésus, par le Nouveau Testament, et ensuite, progressivement, plonger dans les références, et il y en a tellement. Qui nous rapportent l'Ancien Testament, qui nous permettent de comprendre comment Dieu conduit toute cette histoire. Alors, pour connaître et comprendre la révélation, il y a aussi le magistère de l'Église, c'est-à-dire ce que l'Église essaye d'enseigner, d'expliquer depuis 2000 ans. Et l'Église a essayé de beaucoup réfléchir là-dessus. Alors, on a le catéchisme de l'Église. Ça, c'est la version poche. Hein.
Oui,
oui. Une version, hein. Et une version plus grande.
Oui. Voilà la version.
Voilà, c'est ça.
Oui.
C'est la dernière version, là, le blanc, c'est bon.
Pardon ?
Oui, c'est le blanc, c'est
oui.
La dernière version.
Oui.
Il y a une version provisoire en noir. Donc, ce catéchisme qui résume finalement tout le trésor de la foi. Hein. De manière logique. Dans la Bible, on a les choses de manière chronologique, la manière dont Dieu s'est révélé progressivement, ce qu'on appelle l'économie du salut, puisque Dieu s'est donné progressivement dans une économie. Ici, c'est de manière théologique, c'est-à-dire dans une logique qui va essayer d'analyser les choses de Dieu de manière rationnelle. Alors, c'est un trésor, hein, il y a la réponse à toutes les questions, mais là non plus on ne peut pas le lire de bout en bout. On peut,
non.
Mais voilà, il vaut mieux aborder ça par thème, quand on a une question sur un thème, on approfondit un sujet, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a un très bon résumé dans le petit.
Allez, Lucas.
Oui. Lucas. Alors, c'est en fait le catéchisme pour la jeunesse.
C'est là pour les nuls.
C'est pas la collection pour les nuls, non.
Ils
seront
bien les
Lucas. Oui, voilà, ils seront très bien.
Mais Lucas, qui est-ce qui a écrit ça?
Benoît.
Oui. C'était Ratzinger à l'époque de Jean-Paul II. C'est le pape Jean-Paul II qui avait demandé qu'on refasse un catéchisme. Parce que de temps en temps, l'Église réactualise. Il y a eu un concile important, donc une étape importante dans la vie de l'Église dans les années 1960, par là. Et après le concile, il fallait de nouveau reprendre les choses, les synthétiser à partir du concile. C'est pour cela que ce catéchisme est sorti à la fin des années 90. Donc c'est vraiment un très très long travail qui était mené par cardinal Ratzinger, qui était le responsable de la congrégation de la doctrine de la foi.
De la foi.
C'est l'un des ministères du Vatican, oui. Il y a plusieurs ministères. C'est le ministère qui s'occupe de la doctrine. Donc c'était son travail, comme il était théologien. Mais il s'est fait aider d'autres théologiens. Mais il y a eu ce bon résumé pour les jeunes, justement, dans une formule qui rejoint les anciens catéchismes, c'est-à-dire qui est sous forme de questions-réponses. Vous rappelez peut-être pour certains le catéchisme de la jeunesse. Qui est Dieu? Ça fonctionnait sous forme de questions et réponses qu'on apprenait par cœur. Voilà, on n'est pas obligé d'apprendre les réponses par cœur. Mais ça permet de rendre un peu plus vivant la lecture. On retrouve en fait l'essentiel du catéchisme là-dedans, et quand on veut approfondir quelque chose, on passe dans le grand catéchisme. Et alors ce catéchisme est en 4 parties. La première partie, c'est sur ce que nous croyons, la foi, le mystère de ce que Dieu veut nous dire, nous révéler. La deuxième partie, la célébration des mystères chrétiens, c'est-à-dire justement la vie divine que nous recevons au travers des sacrements. C'est ça la révélation, c'est le fait d'être transformé par la révélation. C'est pas seulement d'être informé intellectuellement, mais d'être transformé par les sacrements. Troisième partie, la vie dans le Christ. La vie dans le Christ, c'est ce qu'on appelle la morale. Parce que le fait, finalement, d'être transformé par Dieu, ça implique un mode de vie spécial. C'est-à-dire qu'on va vivre en chrétien, d'une manière nouvelle. Et cette partie de la morale, elle est articulée, en fait, sur les 10 commandements, partie des 10 commandements dans l'optique chrétienne. Et il y a une dernière partie sur la prière chrétienne, tout simplement, qui est basée sur la prière de notre Père. Donc, ce sont des choses qui, de base, finalement, mais qui sont toujours essentielles. Et puis, j'avais mis un dernier petit point pour accueillir la révélation, c'est d'accueillir le témoignage aussi des chrétiens, surtout des saints. La vie des saints, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont, le fruit de leur vie spirituelle, de leur expérience, tout ça peut beaucoup nous aider, nous encourager et nous accompagner pour notre propre chemin de vie.